La fête d'aujourd'hui, la Pentecôte, fête de l'Esprit Saint par excellence, eh bien, clôt cette période vraiment intense, extraordinaire et mystérieuse aussi de la résurrection. Avec elle, évidemment, commencent les temps nouveaux, les temps de la prédication évangélique de la part des apôtres et l'histoire de l'Église en dehors du Christ. Après sa gestation, c'est vraiment, nous assistons à sa naissance au monde, à la lumière. C'est bien de célébrer la Pentecôte dans un sanctuaire marial. Et parce que, eh bien, la situation rejoint celle des commencements. Les apôtres sont en prière dans la chambre haute autour de Marie. Et la présence de Marie n'est pas du tout casuelle, c'est pas juste pour honorer la Vierge Marie que Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, parle d'elle à ce moment-là. Lorsque les évangélistes constatent que Marie n'est pas là, c'est par exemple le cas au tombeau, au jour de Pâques, elle n'est pas là, ils ne la mentionnent pas. Si elle est là, au moment de la Pentecôte, c'est parce que ça veut dire quelque chose de très instructif pour nous. La Vierge Marie, c'est l'épouse de l'Esprit-Saint. Et réellement, la providence de Dieu a voulu qu'elle soit là, cette épouse, ce miroir très pur de l'Esprit-Saint, au milieu des apôtres, pas seulement pour prier avec eux, mais pour prier pour eux, pour que l'Esprit vienne. Marie, de par son privilège d'Immaculée Conception, de Mère de Dieu, a déjà été revêtue de l'Esprit Saint. Elle a besoin de l'Esprit Saint. Mais au moment de la Pentecôte, elle n'en a plus besoin parce qu'elle est pleine, remplie d'Esprit Saint. Elle est pleine de grâce, exactement comme le dit l'ange au moment de l'Annonciation. Elle est pleine de grâce, Marie. Et elle est là pour attirer la grâce, bien sûr, les autres, et à commencer par les croyants et par ceux qui, d'entre nous, doivent répandre le royaume des cieux sur cette terre, au moins par la parole. C'est une manifestation épiphanique que la Pentecôte. C'est pour bien nous montrer, Dieu a voulu montrer à toute l'Église que ce n'est pas n'importe qui arrive, ce n'est pas simplement une transmission de sagesse, vous voyez. C'est vraiment Dieu qui arrive parmi nous. On a vu à l'Épiphanie, avec un peu de tristesse d'ailleurs, Dieu partir, rejoindre le Père. Mais en même temps, la Pentecôte le fait revenir, mais sous une autre forme. Il revient en nous et c'est l'Esprit Saint qui le réalise en nous, qui le rend présent en chacun d'entre nous, cet époux divin, qui est l'époux de notre cœur, qui est celui que nous aimons plus que nous-mêmes. Des langues de feu sur chacun. Alors, ça commence comme ça. Alors, un grand bruit, ça fait trembler le bâtiment, et puis des langues de feu. Le feu, c'est le symbole de Dieu dans la Bible. C'est ce qui vient d'en haut, c'est ce qui n'est pas de ce monde. C'est la lumière, la chaleur. C'est ce qui transforme par l'impétuosité de son énergie tout ce qu'il touche. Et vraiment, il va transformer les apôtres sans les anéantir, Dieu soit loué, mais il va les transformer. L'Esprit Saint, une langue de feu, mais qui se divise, qui se répand sur chacun d'entre eux. C'est à la fois une expérience collective, c'est le but de l'Église, de faire connaître, mais en même temps de transmettre, c'est notamment les sacrements, de transmettre cet Esprit Saint à ses membres. Et puis, c'est une expérience individuelle, car le collectif ne doit pas rester un collectif qui nous dépasse, qui dépasse chacun d'entre nous. Vraiment, ça descend en chacun d'entre nous. L'Église, c'est ainsi, c'est pas seulement le clergé qui l'anime, qui la chapote visiblement, c'est tous ses membres. Et l'Église est rayonnante en fonction du rayonnement de chacun, de l'accueil de chacun. Alors c'est invisible. On ne saura les choses qu'au jugement dernier, et là, tous les yeux s'ouvriront. Mais ici-bas, ce n'est pas visible, mais c'est tangible, mesurable, sensible, si j'ose dire, par l'efficacité ou l'inefficacité, malheureusement, de la prière de l'Église en certains cas. Et c'est vrai que la prière de l'Église varie en fonction de la ferveur de ses membres, mais de l'ensemble de ses membres. Donc une expérience collective, mais également et impérativement personnelle. Dieu ne peut pas se communiquer à une entité anonyme, parce que collective, collectif, ça veut dire anonyme. Mais alors, il veut se communiquer à ces âmes qu'il a créées, qu'il veut sauver, qu'il veut retrouver comme le père de l'enfant prodigue, qu'il veut enlacer. Et la Pentecôte, d'une certaine façon, est un enlacement amoureux, mais divin. Cet amour d'agapé qui qualifie Dieu et qui le distingue de nos amours à nous. Le don des langues, c'est parler au cœur de chacun. Vraiment, l'expérience de la Pentecôte, là, c'est linguistique. Ça éclate de manière sensible pour que le public puisse s'en apercevoir. Ils parlent des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et les étrangers comprennent ces langues qu'ils parlent. Mais en même temps, ça dépasse cet aspect extérieur. Ils comprennent parce que les apôtres, là, se mettent à parler à leur cœur. Ils se mettent à rejoindre leur espérance profonde, si profonde d'ailleurs qu'ils pouvaient ne même pas en avoir eu conscience. C'est l'Esprit qui révèle en nous, finalement, nos attentes les plus brûlantes. Et les apôtres parlent ces langues-là, la langue du cœur. La langue du cœur est une belle langue. Et c'est la seule langue, eh bien, finalement, que les âmes entendent. On peut faire des discours creux, on peut creux dans le sens s'arrêter à la lettre. C'est toujours faisable, ça. Mais parler au cœur, eh bien, ça nécessite vraiment l'aide de l'Esprit-Saint. Parce que nous ne connaissons même pas ce qu'il y a dans notre propre cœur. Alors connaître le cœur des autres, ça nous dépasse vraiment. Saint Paul, lui, dans son épître, il parle des fruits de l'Esprit-Saint. Vivre selon l'Esprit et non pas vivre selon la chair, nous dit-il. Et la vie de l'Esprit, bien, c'est fuir les convoitises de la chair. Il en énumère une quinzaine, là, la division, les disputes, les convoitises des biens matériels, l'idolâtrie, la magie, etc. Et il oppose, mais non pas d'une façon symétrique, vous voyez, il en oppose neuf fruits qui sont la douceur, la paix, l'équilibre. Ce sont des dons intérieurs. Ils ne sont pas extérieurs, ces dons-là. Que je vous les retrouve. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Vous voyez, ils sont intérieurs. Ce n'est même pas des vertus appliquées aux choses extérieures. Il ne prend pas d'exemple à l'extérieur de comportement. Il parle vraiment d'une sorte de climat intérieur, un climat du cœur, un climat de l'âme qui est apaisé, qui est heureux, qui est pacifié, qui est aérien en quelque sorte. Il est vraiment spirituel au sens le plus fort du terme. Saint Jean, lui, eh bien, nous parle, il complète l'expérience de la Pentecôte qui est décrite dans le livre des Actes par un commentaire sur la nature des dons de l'Esprit-Saint, la nature de l'Esprit-Saint. Et il insiste beaucoup dans son évangile, comme dans l'Apocalypse, pour nous dire que l'Esprit, c'est lui qui anime l'Église. C'est pourquoi il utilise le nombre 7, symboliquement, et non pas le nombre 12, quand il nous parle de l'Église Saint-Jean. Souvenez-vous, la dernière apparition au bord du lac, les disciples sont au nombre de 7. Ils ne sont pas au nombre de 11 ou 12. Non, ils sont au nombre de 7. 7, c'est les dons de l'Esprit-Saint. Et ça, pour nous dire que c'est l'Esprit et l'Esprit seul qui fait que l'Église est féconde, qui fait que l'Église puisse tenir le coup dans les tempêtes, qui fait que l'Église est capable, eh bien, de survivre à toutes les imperfections des croyants et du clergé, voire à leurs péchés. L'Église est capable d'aller au-delà de tout ça, de triompher de tous ces obstacles, parce que c'est l'Esprit qui est en elle qui la porte. Sinon, elle serait morte depuis longtemps, elle aurait été balayée et oubliée de la surface de la terre. L'Esprit est vraiment la seule chose qui la défende et qui la qualifie au sens propre et fort du terme. Donc, l'Esprit, qui est-il ? Un avocat d'abord, nous dit Jésus. Paraclétos, l'avocat, le défenseur. Et on pense tout de suite à cet esprit maternel qui est en Dieu, car en Dieu sont tous les amours. Et l'avocat, c'est vraiment l'esprit maternel de Dieu. Et l'esprit maternel de Dieu est visible, est tangible pour nous à travers l'Immaculée Conception, à travers la Vierge Marie, elle qui est remplie d'Esprit Saint, elle exprime vraiment typiquement dans sa personne cet esprit maternel, cet amour maternel de Dieu. Il est, l'Esprit Saint, également le révélateur de la vérité. Ce qu'il entendra, il vous le dira. Ce qu'il entendra, il n'invente pas l'Esprit Saint, mais il rappelle en réalité. Il vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit, dit Jésus. Il fait comprendre. C'est comme le don des langues. C'est la capacité de parler au cœur, mais pour parler au cœur, il faut comprendre. Et l'Esprit Saint, eh bien, nous fait comprendre. On le voit hein, quand on médite l'Écriture, quand on prie. On se demande un peu ce que signifie tel passage, ou on se demande qu'est-ce que cette situation humaine, historique, là, qu'on peut constater dans la vie, eh bien, peut bien signifier spirituellement. Et l'Esprit Saint est là. Il nous parle, il nous explique. Eh bien, ce que nous ne comprenons pas. Ce qu'il entendra, et il entend les choses depuis l'éternité, l'Esprit Saint. Et ce sont des choses éternelles qu'il nous dit, des vérités qui sont forcément éternelles. La vérité, elle, n'est pas soumise au changement, elle ne s'use pas. Nous nous usons. Nous sommes soumis au changement. Mais la vérité demeure. Et c'est ce qui fait que l'Église n'est pas une construction, son message n'est pas une construction, une élaboration culturelle, intellectuelle. C'est vraiment une illumination, une révélation reçue d'en haut. Et en haut, ça veut dire au-delà de la matière. Saint Jean évoque le don de prophétie. Les choses à venir, il vous les fera connaître. Comment peut-on connaître les choses à venir ? Eh bien, l'Esprit Saint s'appuie sur une propriété de notre nature, liée à la connaissance. Si nous sommes capables, grâce à l'Esprit, de connaître l'essence, donc le fondement, la constitution, et en même temps la finalité des êtres, eh bien, nous sommes quasiment capables de prévoir ce qui inéluctablement peut arriver. Alors ce n'est pas simplement un programme de prévision d'une IA, vous voyez, d'une intelligence artificielle, on en fait maintenant, on commence à en faire. Non, ce n'est pas seulement de la prévision statistique. C'est réellement voir à travers l'esprit, mais sans nier notre nature, en faisant participer notre nature à ce mode de connaissance. En tout cas, le don de prophétie a bel et bien été accordé à l'Église, mais il n'est pas accordé systématiquement à tous. Il est accordé en fonction des desseins divins, de l'utilité que Dieu peut trouver à cela. Le dépassement de la matière. Voyez, le don de prophétie et tous les dons de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit Saint en nous, engendrent ce dépassement de la matière. On va vivre de l'Esprit, on va vivre d'en haut. Et c'est le ciel qui s'ouvre, comme pour Saint Jean, au moment du, quand il est sur l'île de Patmos et qu'il a sa grande vision de l'Apocalypse, qui veut dire révélation. L'avenir, fondamentalement, c'est l'éternité, c'est pas demain, c'est pas situé sur la ligne temporelle où vogue notre existence. Non, l'avenir, c'est réellement le monde à venir, c'est réellement cette éternité que Dieu nous fait contempler. Et le don de prophétie va jusque-là. Il va jusqu'à contempler l'éternel. Alors, nous sommes à la Pentecôte, nous sommes autour de la Vierge Marie. Nous lui demandons de prier pour chacun d'entre nous, pour toute l'Église. Amen.